pour revenir à la sèche, c'est-à-dire avant de, d'arriver à la fin, de voir ben, de quoi on parle, parce que évidemment on nous demande de penser par nous-mêmes sur des sujets en plus sociétaux, mais on pense à partir de nos textes. Et tous les rishonim ou acharonim qu'on va citer développent une pensée, mais en se raccrochant au texte. Donc je pense qu'il est indispensable de partir de la, bah, de la base, et en particulier d'abord de la Bible. Alors, de quoi on parle ? On parle donc de, on va parler ce soir de la mitzvah, mais en disant cela, je prends déjà parti, de la mitzvah de nommer un roi. Enfin, le peuple juif doit avoir un roi. Qu'est-ce que c'est avoir un roi ? Qu'en dit la Torah ? Alors, cette mitzvah apparaît, on va le voir tout de suite dans le Sefer Devarim. C'est ce qu'on appelle l'une des, ce que le Ramban appelle l'une des nombreuses, mais pas si nombreuses que ça, mitzvot mechudashot, c'est-à-dire qui n'apparaissent pas dans les livres antérieurs. C'est la première fois et l'unique fois qu'elle apparaît dans le Tanakh, dans la Torah, pardon. Même si il y a quelques allusions à la notion de royauté. Déjà avant. La première, elle est dans Bereshit, c'est-à-dire à la fin de Vayishlar. Si j'ai le temps, je me ferai un petit plaisir et je reviendrai là-dessus sur un enseignement que j'avais entendu de Rav Zizek, qui je trouve peut-être, qui peut être à propos, si j'ai le temps. Et donc sa première occurrence, elle est lorsque la Torah énumère les rois de Edom. On se demande bien pourquoi. Et le pasuk dit Ve'elam Menachim Asher Malchou Beretz Edom. Voici les rois qui ont régné dans la terre d'Edom. Lifnei Melech Melech Lifnei Israël. Avant qu'il n'y ait l'établissement d'un roi pour les Bnei Israël. Donc il y a déjà cette allusion. La deuxième allusion, on la trouve à la fin du Vayechi, lorsque Yaakov va bénir ses enfants, il va bénir Yehuda, et donc il lui dit ce verset célèbre: Lo yasur shevet mi Yehuda mchokek mi ben radav ad ki yavo shilo velo ikea tamim. Et donc les commentaires là-dessus développent et disent qu'il est fait allusion au fait que Yehuda incarnera la royauté. D'ailleurs, il y a un Ramban très célèbre qui pose plusieurs questions, et notamment qui dit: mais comment concilier ça avec le fait que le premier roi, comme vous savez, c'était Shaoul, qui n'était pas de Yehuda, et s'il n'avait pas fauté, comment on aurait fait? Bon, une autre question. Et il y répond. Alors, cette mitzvah, donc, ce sujet va faire l'objet de trois mitzvot, de trois commandements, si on suit le décompte de Maïmonide ou du Sefer HaChinuch. Donc ils ont la même comptabilité, à savoir un commandement positif qui est de nommer un roi, donc ça on va en discuter aujourd'hui, un deuxième commandement négatif qui est que ce roi ne peut pas être pris ni parmi les goïms ni même étant un converti, il faut que ce soit un juif non-guerre, et le troisième commandement qui est un autre commandement négatif qui est relatif aux interdits du roi qui ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, le herbello, le soucim, etc. Donc, je propose, c'est de dire déjà rapidement les deux textes principaux qu'on a dans le Tanakh. Donc, le premier, bien sûr, il est dans Shoftim, dans la parasha de Shoftim de Varim. Et le second, il est dans le Sefer Shmuel, lorsque Shmuel va être confronté à la demande du peuple, justement, d'avoir un roi. Donc, je vous propose de lire rapidement les versets. Je vais les lire un peu rapidement. N'hésitez pas, bien sûr, à m'interrompre n'importe quand. Lorsque éventuellement j'utilise des mots que vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions, mais je vais aller assez vite puisqu'après c'est bien sûr un support pour développer notre réflexion. Donc dans Devarim vous avez le premier texte, qui t'avoue elle arrête. Donc ce verset il est capital, c'est là-dessus que va se cristalliser toutes les discussions et tous les débats qu'on va avoir ce soir. Qui t'avoue elle arrête, lorsque tu arriveras sur terre, sur la terre, Asher Hashem Lokechan Netanar, que Hashem te donne, Virishta, alors tu l'hériteras, Veyashartaba, et tu t'installeras dedans, Ve, alors c'est un peu sauté, Veyamarta, et tu diras, Asima Alaim Eler, Kechol Agoim, Asher Sivivotai. Voilà. Et alors tu diras, je mettrai sur moi, donc c'est le peuple qui s'exprime, je mettrai sur moi un roi, comme tous les Goïm qui m'entourent. Donc le verset de la Torah continue. Sam tassim alecha meler. Donc je rajoute alors tu mettras un roi. On reviendra sur cette formulation après. Hashem Hashem Kechabo, que Hashem a choisi. Mikera achicha parmi tes frères, tu mettras sur toi un peuple, l'otucha la tête alecha ishnochi, tu ne pourras pas mettre un homme non juif, achal ochichaou qui n'est pas ton frère. Voilà. La suite, je vais passer, vous pouvez la lire et on connaît un peu le contenu. Donc je passe à Shmuel. Donc Shmuel, plus de 300 ans plus tard, c'est-à-dire qu'il y a eu 300 ans d'installation des Bnei Israël après avoir conquis Eretz Canaan, avec le Mishkan installé à Shiloh, et il n'y a pas eu droit. Et donc, sur le tard de la vie de Shmuel, Vaïtka Betsu Kol Zikne Israël, tous les sages, les anciens d'Israël se sont rassemblés, Vaïavo et Shmuel à Ramata, ils sont venus vers Shmuel qui était à Ramata, Vaïmru Elab, ils lui ont dit, Ine Atazakanta, voilà toi, toi maintenant t'as vieilli, tu es sur la fin de ta vie, Uvanecha et tes enfants, Loachou Bidrachecha, n'ont pas suivi tes chemins, Ata, maintenant, Simal Anoumenech, les Choftenu Kechavim. Il est temps, maintenant, pour nous, que tu nous nommes un roi, pour nous, tu nous mettes un roi, pour nous juger comme les Goïm. Voilà. Bon, là-dessus, la Gemara, c'est Rabbi, si j'écrivais bien, ça serait mieux, Rabbi Shimon ben Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, qui dit que quand donc, Klaumer, Bneshmuel, Chatou, Eno, Latoé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lire le texte au premier degré. C'est pas que les enfants de Shmuel étaient des impies. Mais c'était plus subtil que ça. Ils faisaient pas comme Shmuel, hein. On va pas développer ça maintenant. C'est pas forcément le sujet, quoique. Mais en tout cas, les Bnei Israël voyaient qu'ils pouvaient pas continuer avec Shmuel comme avec ses enfants. Et qu'il y avait peut-être plus de successeurs comme il fallait. Donc, il fallait nommer un roi. Vaïra Adavar Bene Shmuel, donc ça c'est important. Shmuel a très mal pris la chose. Alors, bien sûr, on se pose toute la question, il a très mal pris la chose, mais en même temps c'était écrit hein, qu'il fallait nommer un roi, je crois. Kacher Amrou, du moment quand ils ont dit Tena Elmener de Choftenu, quand ils ont dit donne-nous un roi pour nous juger, Vaït Palel Shmuel Hachem, et Hachem s'est retourné prier vers Hachem. Vaïmer Hachem et Shmuel, et la Hachem dit à Shmuel, une phrase extraordinaire, Shema Bekolaam, écoute la voix de ce peuple, du peuple, les Chol Hachem Roulecha, tout ce qu'ils te diront, tu les écoutes, Kilo Otra Maasu, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Alors, Maasu, on pourrait être plus violent dans la traduction, mais, hein? Répugné. Mais bon, la traduction officielle, ils ont mis rejeté. Voilà. Mais c'est vrai, Maasu, il y a une idée de dégoût, hein, même. Ki Oti Maasu, car en fait, c'est à moi qu'ils en veulent, c'est moi qu'ils rejettent, Mimeloch Aleem, de régner sur eux. C'est important ça, parce que je pense qu'on va beaucoup en discuter. Voilà ce que dit Dieu à Shmuel. Il dit, t'as pas le choix, faut y aller, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, mais en fait, c'est moi, c'est ma position de Ménère qu'ils n'acceptent plus. Kol Amasim Asher Asumi Olot Yotam Mitzrim Adayom Hazeh Vayazvuni, alors, ils rappellent tout ce qu'ils ont fait depuis que je les ai sortis d'Égypte, ils m'ont abandonné, Vayabdolokim Acheri, mais ils ont Elohim Acherim, pardon, et ils ont servi d'autres dieux. Ken Ema Osim Gamlach, ainsi ils font aussi pour toi. Ve'ata Shema Bekolam, maintenant écoute leur voix. Ve'igata Lebe Mishpat Amener, et tu leur raconteras justement le Mishpat Amener, Hacherim Noch Aleem, avec lequel ils vont régner sur eux. Et ça c'est important, la suite. Va'yomer, c'est le sujet. Va'yomer Shmuel, et Shmuel dit. A dit, et kol divrei Hachem, il est donc, il a suivi les paroles d'Hachem, il a dit toutes les paroles d'Hachem et la âme vers le peuple, à Shoalim, Meito Mener, qui lui demandait un peuple. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Pardon? Non? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vayomer, il leur a dit, Zeye Mishpat Amener, Hachem Lochalechem, voici le jugement du roi qui va régner sur vous. Donc là, Shmuel va avoir des mots très durs, je vais lire quelques versets. Et Benechem, vos fils, Yikar, il les prendra, ve Samlo, ça, Bemerkato ou Farachav, ve Ratsu Lifne Merkato. Donc il prendra vos fils, il les mettra pour les employer à ses chars et à sa cavalerie, ve Ratsu Lifne Merkato, et il les fera courir devant ses chars. Mais la soumo Saré à la fime, et pour mettre, et donc il poursuit, le roi qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre pour lui Saré à la fime, donc des officiers par milliers, des Saré Khamishim, des officiers de 50, Mais la haroche haricho, il va les forcer à labourer. Il va prendre vos filles. Pourquoi il va les prendre? Les rakachot ou le tabachot ou l'ofot. C'est-à-dire pour la préparation des parfums, pour son tabachot, c'est quoi son pain, je crois? Pardon? La cuisine. Voilà, oui, la mitbar, voilà. Ou l'ofot et pour son pain, c'est ça. Etc, etc. Bon, je ne veux pas tout lire, mais en gros, là, Shmuel est en train de dresser un tableau bien noir de ce qui les attend. Donc, on a bien compris, Shmuel, il est archi contre. Il leur dit, bon, je vais vous laisser y aller parce que, voilà, Dieu me dit d'y aller, mais regardez ce qui vous attend. Alors, voilà, avec ces deux textes, on a quelques questions. Je vais les formuler à votre place, mais on les a tout de suite. Les questions qui se posent, c'est, la première chose, c'est technique dans la lecture, quand on prend le premier verset de Dvarim, comment est-ce qu'il faut dire ce verset? Kitavo ala aret asher Hashem lokechad zanechavala. Bon, quand tu vas arriver sur la terre, ça, on sait que bah, la sortie d'Égypte c'était pour recevoir la Torah et arriver en Eretz Kenaan. Très bien. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas là, ve'amarta sima amener, et que tu diras, je mettrai un roi. Donc ta question c'est que, est-ce que le ve'amarta, il fait partie d'une, est-ce que c'est une condition? C'est-à-dire, si jamais tu demandes, alors samta sima amener. Ou bien le ve'amarta, c'est une injonction. Par exemple, donc ça, c'est des questions qui sont posées. Prends un exemple qu'on connaît tous. Il y a écrit Kitivne ba'it hadash ve'asita ma'ake legagecha. D'accord, c'est exactement par analogie la même phrase. Et c'est le même mot ve'asita ve'amarta, c'est la même forme. Hein. Donc Kitivne ba'it hadash, quand tu construiras une nouvelle maison. Bon, ça, on a tous eu l'occasion de construire des maisons. Ça nous arrive là. Voilà. Alors, ve'asita ma'akel gagecha. Tu as l'obligation, c'est une obligation de la Torah, de construire un ma'aké, une barrière sur le toit pour protéger, parce que sinon tu peux provoquer la mort. Donc ça veut dire quand on a une maison, on a un toit, il faut faire un ma'aké. C'est-à-dire que vous avez un balcon, il y a une obligation de faire un ma'aké. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, c'est une obligation de la Torah. Donc là, on comprend bien que le ve'asita, c'est une injonction. Bon, si je, le jour où je construis une maison, t'as pas le choix, tu dois faire un ma'aké. Donc si j'applique la même façon, cette même lecture à ce verset, vous comprenez que ça veut dire quand tu arriveras en Eretz Israël, bon, on attend que tu y arrives, quand tu seras installé, l'Erishta, tu le vêteras et que tu seras installé, alors là, ve'amarta, tu demanderas. Ça c'est une lecture. L'autre lecture c'est ve'amarta et que si jamais tu demandes. Alors il y a d'autres versets qui clairement ont cette lecture-là avec les mêmes mots. Donc il y a une ambiguïté dans le texte. Et cette ambiguïté, elle fait couler beaucoup d'encre. On va en parler ce soir. Première question. Deuxième question. Et dans cette même question, même si je répondais que c'était une injonction, il y a une autre question, c'est de savoir, est-ce que c'est un souhait? Est-ce qu'il y a un souhait derrière que les peuples demandent ça, ou est-ce que c'est simplement une anticipation? Deuxième question, c'est le Sefer de Shmuel, ce qu'on a lu dans Shmuel. Tout ce que Shmuel raconte, est-ce que Shmuel est juste en train de les prévenir que c'est quelque chose qui peut leur arriver, ou est-ce qu'il les prévient que c'est quelque chose qui va leur arriver, parce que le roi effectivement aura ses privilèges? Les deux lectures sont possibles. Et vous comprenez que c'est ces questions-là qui vont... définir une relation à la malchoute Israël qui peut être diamétralement opposée. Et sans dévoiler déjà la suite, on va avoir la position de Rambam et on va avoir la position de Abravanel. Mais si je ne m'abuse, tout va partir de la lecture de ces textes. Et on va le voir. On va le voir dans la Gemara. Alors, juste avant, vous pouvez passer en page 4. J'ai dit les commentateurs de la Torah, d'accord ? Ramban, Nachmanide. Alors Ramban Nachmanide, je crois que c'est le plus clair et le plus radical dans cette position. Lui, il est très clair. Il dit Ve'amarta atima laimener, ça veut dire Aldad Rabotenu, Kemo ve'emor atima laimener. C'est ça, ve'emor, je ne sais pas si je lis bien dans la ponctuation. Ça veut dire c'est une injonction. Dis et tu diras atima laimener. Se lever à Martha, c'est un ordre. D'après Ramban, c'est clair. Vei mitzvat asé. Et c'est une mitzvat asé. Chez Chayav otanu lomarken acharei Yerusha v'Yeshiva. C'est-à-dire que c'est très clair pour Ramban. Le jour où je mets les pieds en Eretz Israël, j'ai une obligation de demander un roi. Et donc après de le nommer conformément à ce que la Torah dit. Si on ne peut pas y dérober, je suis contraint. Voilà. Alors ensuite, le paragraphe qui est en dessous, c'est vrai, il dit, mais c'est vrai qu'on a un problème parce que la Torah, elle suggère quand même, quand on te dit, elle dit, et tu viendras et tu diras que Cholagoïm, on a quand même l'impression, tu diras, oui, j'ai envie de faire comme tous les peuples. Une lecture, et c'est pas une lecture superficielle, hein, parce que ça va être celle de beaucoup de commentateurs, consisterait à dire finalement, c'est, ouais, si jamais tu tombes et que tu tombes dans la modernité, tu veux faire comme tout le monde, etc., alors voilà. Donc cette lecture-là, elle colle pas à ce que dit Ramban. Alors, dit Ramban, ça c'est les trois dernières lignes, il dit pourquoi il y a quand même cette formulation ambiguë. Il dit avalzer remez le inyan shelié. C'est simplement parce que ici la Torah, elle donne une allusion à ce qui va vraiment se passer. Et effectivement, on a vu que du temps de Shmuel, ils ont exactement employé les mêmes termes. On a envie d'avoir un roi, les shoftenu que Chalagoïm. Donc ça c'est une première réponse de Ramban. Je ne veux pas dire que je préfère, mais je trouve que celle de vous avez au-dessus du Emek Dabar est un peu plus originale. Il dit à peu près la même chose, hein, le début avec une autre démarche, mais il dit quelque chose qui m'a fait penser à un de mes grands maîtres, si j'ose une petite pointe d'humour, qui est Louis de Funès, dans un passage célèbre d'un film que j'aime beaucoup, qui dit qu'il faut toujours que, quand on veut faire passer une idée, il faut que l'idée vienne de l'autre. Bon. Et en fait, dit ici le mec d'Avar, je le dis en substance, il dit comme ça, il dit, pour un sujet aussi sensible qui est de se mettre, de nommer quelqu'un qui peut avoir un droit de vie ou de mort, parce qu'on va voir les pouvoirs du roi, d'après le Rambam, ils sont énormes. Il est capable d'avoir une décision de vie ou de mort en lieu et place, d'après le Rambam, on verra après, du chauffet. Même s'il n'y a pas de témoins, de quelqu'un qui a fait, il n'y en a qu'un. Vous savez que d'après le tribunal, on ne peut rien faire. Rambam, on va y revenir tout à l'heure, il dit, bon, le roi, il peut décider. Alors, dit le mec d'Abba, il était impensable que cette injonction-là vienne directement de Dieu. Il faut qu'il y ait d'abord une démarche humaine. C'est ça. C'est-à-dire, on attend que le peuple demande parce que c'est nécessaire pour que le roi, il ait une légitimité. Pour que le roi ait cette légitimité et qu'il soit accepté par le peuple. Voilà ce que dit en substance le Emek Dabar, je voulais résumer, mais il se dit très bien. Donc le Emek Dabar, c'est Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'était pas de Berlin. En tout cas, il a vécu à Varsovie au XIXe siècle. Et c'est un commentateur fabuleux, en particulier de la Torah. Alors maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Vas-y. Attends, j'ai perdu la page parce que j'ai tourné. Elle est où? Oui, mais moi j'ai des pages à l'envers. Vas-y, oui, pardon. Oui.
Oui. Il est en train de dire qu'en fait, il y a des peuples qui savent se gérer sans roi.
Ouais.
Il y a des peuples qui, s'il n'y a pas un roi, c'est l'anarchie. Et on dirait ce que veut dire la Martha. Ça veut dire que c'est conditionné à la situation du peuple. Soit le peuple, il sait se gérer tout seul, et alors il n'y en a pas. Soit il ne sait pas se gérer tout seul, et il faut.
C'est ouais, mais juste avant. Juste avant, il dit, j'ai mis en gras, « Vare yadoua bedibrhaza de mitzvat limnot mener ».
Donc,
ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que, je pense quand même, je pense qu'il se démarque, peut-être, hein, moi j'ai lu qu'il ne se démarquait pas de la position, qu'il y a une mitzvah, parce qu'il le dit, je l'ai mis en gras, « Vare yadoua bedibrhaza de mitzvat limnot mener ». Et il dit, « Udvarze yefchar la asot al pierre kheach mitzvatase ». Ça, je ne peux pas envisager que ce soit fait par la contrainte d'une mitzvatase. Sharevinian achar la nagat la nakla la nogal et sakana de vachot shelochim mitzatasim shelochim lo efchar le tzavot beichlet imnot menach kol ze shelo alav beskamat ha'am lisbol ol menach alpi shiru medinot hashvotem. Bon, moi j'ai lu comme ça, mais ok, peut-être.
Donc c'est une mitzvah assez conditionnelle. Elle est conditionnée par la situation du peuple. Si le peuple, c'est comme les entreprises, il n'y a pas un patron qui est comme ça.
Ouais.
Ça marche pas. Et là, c'est le management collaboratif, on arrive à gérer et on... si le peuple, lui, n'est pas capable de gérer son roi, il faut être en roi. Et là, t'as un débat qui est...
Et c'est pour ça qu'on a attendu 300 ans, d'ailleurs. Mais je pense quand même que ce qu'il dit, c'est que c'est quelque chose de nécessaire. Il faut que, in fine, le peuple d'Israël ait un roi, mais on va attendre qu'il le demande. Voilà comment je le formulerai.
J'ai l'impression qu'il ne dit pas si c'est bon ou pas bon. J'ai l'impression qu'il est juste... Ça peut être bon, ça peut être pas bon. C'est bon,
c'est bon. Ok, bon. Alors, je vous propose de passer à la page 2. Le Talmud, bien sûr, s'est emparé du sujet. Et il y a quelques lignes qu'on va rapidement lire. Et c'est de ce passage que vont partir les discussions. Alors, vous avez, je crois que ça a été. Le bleu en dessous, vous n'en tenez pas compte, c'est une erreur de ma part. Mais le jaune, on va démarrer au-dessus. Donc, c'est dans Sanhedrin, page 20b.
On peut s'arrêter un peu sur ce commentaire de la
Bible. Oui.
Il dit cela. Il dit cela, ça veut dire que ça se rapporte au peuple d'Israël. Alors, pour expliquer la mitzvah, il dit là, il y a des peuples qui sont tendance ayant besoin d'un roi, et voyez ce qu'ils ne sont pas, ou des situations. Mais c'est une mitzvah ou pas? Si c'est une mitzvah pour les Israël, ça ne change rien que les autres peuples.
Tout à fait, c'est pour ça que moi, je n'ai pas la lecture de Nati. Je pense qu'il part du postulat que c'est une mitzvah, qu'il faut avoir un roi. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on voit bien qu'il y a des peuples qui n'en ont pas besoin. On voit qu'il y a des peuples qui en ont besoin. Donc il dit. Et les autres peuples, ils sont comme nous. Enfin, nous, on est comme eux, pardon. On est fait de chair et de sang. On a les mêmes, a priori, on a la même chose. Donc, on peut entendre qu'il peut y avoir des générations qui ne vont pas exprimer ce souhait. Et ce qu'il dit, c'est que ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas imposer. Donc, il faut que ça vienne du peuple. C'est pour ça que je pense qu'il dit, voilà, chez le peuple, on voit qu'il y a tous les modèles. Donc, on peut. Donc, et le fait qu'il y ait tous les modèles, ça veut bien dire qu'il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. Et donc, s'agissant de quelque chose, on parle même de sakanat nefashot, c'est-à-dire que derrière il y a des enjeux de vie ou de mort, et ça, on entend bien ça aujourd'hui, je trouve que c'est assez moderne, c'est-à-dire qu'il faut que ça vienne du peuple. C'est pas quelque chose qui peut venir d'en haut. Il faut que la nomination du roi soit initiée, au début en tout cas, par le peuple. Alors, une fois que le peuple lance le dé, j'ai envie de dire, alors là il sait pas ce qu'il va dire. Alors là ça déroule. Hein. Mais il fallait que la première impulsion vient du peuple. Je ne sais pas si j'ai répondu à...
Explique un peu plus, mais la question de peur de savoir finalement l'aider Israël, quand on n'a pas le droit, on dit ben, on va quitter le statut d'Israël, vous êtes en Israël. Alors c'est...
Pourquoi quitter le statut?
Non, décider si c'est une histoire ou pas. Ça dépend si vous êtes comme les autres peuples un peu à gauche, comme les autres peuples un peu à droite, comme les autres peuples tendance anarchiste.
Non, mais moi je.
Dieu, il abandonne quoi quand il dit s'il demande un roi,
il abandonne sa royauté quelque part. Enfin, en tout cas, il la délègue. On va revenir. C'est une idée qui est exprimée par le commentaire d'à côté, mais je le laisse pour la fin. Je le laisserai peut-être même pour Nati, celui-là. Mais très bien. Je peux te tutoyer, mais garde la question. Et alors, l'Agmara. Donc page 2. Donc l'Agmara en traité Sanhedrin. C'est d'abord. Tu as un jour ? Ouais. Donc, premier passage. Donc, en fait, il va y avoir trois discussions. C'est important, c'est trois discussions qui se suivent et en fait qui vont faire référence. En fait, il y a deux discussions qui sont identiques et qui font référence à deux questions. Aux deux questions qu'on a posées. D'accord ? Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Shmuel, c'est ce qu'on appelle un Amora, c'est donc un personnage du Talmud. Il dit la chose suivante, Kol ha'amour beparashat meler, tout ce qui est dit dans la paracha qui traite du roi, de quoi on parle Rachidi, de la section du livre de Shmuel, c'est Shmuel qui dit ça, pour la petite histoire, Kol ha'amour beparashat meler, meler mutarbo. Voilà, tout ce que Shmuel a dit dans la liste à la Prévert des privilèges du roi qu'on a lu tout à l'heure, il peut prendre vos filles pour cela, vos fils pour cela, vous faire esclaves, nananana. Tout ça à Melech Mutarbo. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Rav Amar, Rav, comme souvent, est opposé à Shmuel. Il dit non, moi je suis pas d'accord. L'onemra parachazo, et là les ayem aliem. Il dit non, moi je suis pas d'accord. Cette paracha-là de Shmuel, elle n'est là, c'est-à-dire que, cette paracha, ça veut dire les propos de Shmuel n'étaient pas là pour lister les privilèges accordés au roi, mais pour prévenir, en fait, pour intimider, voilà, pour faire peur, c'est plus pour faire peur, c'est-à-dire pour mettre la Emma. Ayam Ilachon Emma pour mettre la crainte du peuple sur le roi. Pourquoi le mot Ayam est important? Pourquoi chez Nema Som Tassim Alecha Meler? C'est écrit Som Tassim, deux fois Som Tassim. Dit l'Akmara, dit Rav, j'étais Emato Alecha. Pourquoi on met Som Tassim? C'est parce qu'il faut que, et ça c'est une obligation, le roi d'Israël il doit inspirer la crainte. Le roi d'Israël doit être craint par ses sujets. Ça, c'est obligatoire. Alors, Shmuel, pour que cette crainte s'installe, puisqu'il a compris qu'on y va, il leur fait peur. En gros, il fait un coup de bluff. Pardon, le coup de bluff, c'est pour après. Je reviens sur... J'ai oublié ce que je viens de dire. Il ne fait pas un coup de bluff. C'est vraiment quelque chose qui va se passer. Il va être nommé. Mais les privilèges qu'il est en train de lister, c'est, il n'est pas en train de dire le roi aura le droit de faire ça. Il leur dit, vous savez, le droit, si ça se trouve, s'il devient tyrannique, si par le jeu du pouvoir, il prend goût à ce qu'il a et puis il dérape, il est capable de vous faire tout ça. Mais en aucun cas, c'est une obligation. Vous avez Rashi à gauche, j'ai souligné, le petit Rashi à gauche. Donc le premier que j'ai surligné, Rav Amar l'onemra parasha des Shmuel, et là les ayem aleem, shete emat malkam aleem, et j'ai souligné aval eno mutar laasot. C'est très clair. Rashi explique que pour Rav, en aucun cas le roi aura droit à ses privilèges. Vous avez compris la discussion Rav Shmuel. Je continue. L'Agmara poursuit, a dit finalement cette discussion entre ces deux Amoraïm, ces deux rabbanim de l'Agmara, en fait, on va la retrouver chez les Tanaïm. On a la même discussion entre deux Tanaïm, à savoir Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Kol amru parashat melech melech mutar bo. Rabbi Yehuda Omer, l'onemra parashazo, ela kede le ayem aleem. Donc, c'est exactement la même chose. Vous remplacez Shmuel par Rabbi Yossi, vous remplacez Rav par Rabbi Yehuda, et c'est exactement les mêmes termes. Petite parenthèse, le Rashi que j'ai aussi surligné vient préciser qu'il faut bien lire les ayem, c'est-à-dire le même terme. Rabbi Yehuda dit non, tout ça c'est juste pour faire peur, pour qu'ils aient peur du roi, et il ne faut pas lire une autre girsa, c'est-à-dire une autre version qu'il y avait dans certains gemarot, qui est la version qu'on va voir juste après. Parce que dit Rashi, on va voir juste après que Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda qui discute avec Rabbi Yossi pour savoir si oui ou non le roi a des privilèges, on va le voir juste après, qui dit clairement que même Rabbi Yehuda, qui dit que le roi n'a pas ses privilèges, il dit qu'il y a la mitzvah de nommer un roi. Est-ce que je me fais comprendre? Rabbi Yehuda est très clair, on va le voir juste après. Il faut nommer un roi. Mais une fois que j'ai nommé, il n'a pas les privilèges. Rabbi Yossi, il dit, il faut nommer un roi. Donc ils sont d'accord là-dessus. Et il aura tous les privilèges de Shmuel. D'accord? Et donc c'est pour ça que Rashi garde la version de Léaïm, et non pas la version qui va être, les mots qui vont être utilisés après par l'opposant à Rabbi Yehuda, et on va voir les mots tout de suite, et je serai peut-être plus clair juste après. Alors, l'Agmara continue. On a présenté une première discussion. Est-ce que le roi a les privilèges, a le droit? Il n'est peut-être bien sûr pas obligé, mais est-ce qu'il a le droit de recourir aux privilèges qu'a listé Shmuel? La réponse est oui d'après Rabbi Yossi, la réponse est non d'après Rabbi Yehuda. Deuxième discussion qui va se dégager, la Gemara continue à dire, à propos de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il a dit autre chose sur le roi. Vechanaya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda disait, Shlosha mitzvot nitztavu Israël b'knisatan la'aretz, il y a trois mitzvot que les bénis Israël n'ont eu au moment où ils rentraient en Eretz Israël. C'est-à-dire que tant qu'ils n'étaient pas rentrés en Eretz Israël, ils n'avaient pas la mitzvah. Il n'y en a pas que trois d'ailleurs. Pardon? Madame ?
Non, c'est les bénéfices qu'ils ont reçus à faire. Non, j'entendais que vous disiez qu'ils les ont reçus.
Non, non, ils les ont reçus du temps, c'est écrit dans la Torah, bien sûr, on va voir lesquels, mais le devoir ne s'applique qu'une fois qu'ils rentrent en Israël. Ils ont reçu la loi du Shabbat, on n'a pas attendu de rentrer en Israël pour faire le Shabbat, bien sûr. Mais par contre, les trois mitzvot en question, il fallait attendre de traverser le Jourdain. Alors, c'est quoi les trois mitzvot ? Donc, la première, Nitzavu, la première, Lehami Laem Melech, de mettre un roi. Donc là, Rabbi Yehuda dit clairement, il faut avoir un roi. Je suis dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne des grandes lignes. Ou l'achid zaro shel Amalek, et d'exterminer le zera de Amalek. Et ça, c'est une obligation qui n'incombe au Bnei Israël que au moment où ils sont en Eretz Kenan, enfin en Eretz Israël. Et troisième loi, livnot lahem bet habechira, de construire le bet hamikdash. Évidemment, tant qu'ils étaient dans le désert, c'était difficile. Bon, ils avaient le Mishkan. Donc voilà, dit Rabbi Yehuda, ces trois mitzvot, elles sont données. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celle du roi. Et là-dessus, vous avez un autre Tana, Rabbi Nehorai. Bon, il y a une différente version, est-ce que Rabbi Nehorai ou quelqu'un d'autre, c'est pas très important pour nous ce soir. Rabbi Nehorai dit, l'onemra parashazo et la kenegeta umatan. Voilà. À peu près, on a l'impression qu'il dit la même chose que tout à l'heure, mais pas du tout. Il dit, non, cette paracha, toute cette paracha du roi, là. Et je pense qu'on peut dire même celle de, on doit dire même celle de Dvarim. Même le texte de la Torah qui dit qu'il faut nommer un roi. Ça a été fait que Keneget Termatan, c'est par rapport aux plaintes qu'ils vont exprimer dans 300 ans. Mais à la base, il n'y a pas besoin de roi. Il n'y a pas de mitzvah de mettre un roi. La Torah, elle dit juste, si jamais il vous vient cette idée saugrenue de vous plaindre. Parce que c'est vrai que les juifs, ils se plaignent un peu, vous avez remarqué, hein, ils ont une tendance à se plaindre. Mais si ça vous arrivait, voilà comment on va faire le roi. Mais en aucun cas, je pense comme Rabbi aussi, qu'il faut nommer un roi. Voilà. Donc là, on a posé dans la Gemara les deux discussions. Je me suis permis de faire un petit tableau en dessous. C'est juste pour récapituler ce qu'on vient de dire. Vous avez Rabbi aussi Shmuel ou Rabbi Yehuda Rav. Donc Rabbi aussi Shmuel sont d'accord sur le fait qu'il y a une mitzvah, c'est la troisième colonne, de nommer un roi. Et il a le droit à tous les privilèges qui ont été listés par Shmuel. Rav Yehuda et Rav, eux, ils disent la même chose, il faut une mitzvah, il y a une mitzvah de nommer un roi, mais par contre, il n'a pas les privilèges. Et puis Rabbi Nehorai, lui, il dit non, il n'a ni mitzvah, ni privilège. Enfin, ni privilège, c'est pas écrit. Mais bon, on peut... C'est pas écrit, en fait. Est-ce que c'est clair ? Ok, bon. Donc on voit que la Gemara, elle nous laisse, bien sûr, elle tranche pas. Que vont dire les décisionnaires ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Alors là, la Gemara, elle laisse le champ, c'est libre. Hein. D'une part, est-ce que j'ai une mitzvah de nommer le roi ? Et une fois que j'ai nommé, est-ce que je lui donne les privilèges ? Finalement, il y a les deux avis. Bon. Donc. On va passer à la page 3. Bon, là, c'est surtout que. Je savais que ça allait m'arriver, que j'allais me... Voilà, c'est bon. Non, c'est bon, que j'ai mes notes sur un... Donc, eh bien, on va commencer par le Mishneh Torah. Donc, le Mishneh Torah, bon, j'ai fait, un pick and choose des longs articles du Rambam, et c'est pas bien ce que je fais, d'ailleurs, parce qu'il faut lire le Rambam dans son intégralité pour comprendre tout ce qu'il est en train de dire. Donc, cette sélection est partielle et partiale, je m'en excuse, mais elle va donner un certain nombre d'éléments. Donc, premier article, toujours très important, le premier article du Rambam sur les Hilchot Melachim. D'accord ? Premier article, premier Perek. Shalosh mitzvot nisan Yisrael bishlat nisatan laaretz. Il reprend le Gemara. Il y a trois mitzvot. Limnot laem meler, shenemar samtasim alecha meler. Donc il y a, dit Rambam, très clairement, pour moi c'est clair, dès qu'on rentre en Eretz Israël, il y a une mitzvah de nommer un roi. On entend, il faut le demander, il faut le nommer. Rambam est très clair. Le Sefer HaMitzvot l'est aussi. Ouais. Et le Rambam est encore plus clair, on l'a vu. Dès qu'on rentre, il faut nommer. Alors, ça, c'est donc le premier chapitre va s'attacher donc à donner un certain nombre de règles sur les modalités de la nomination du roi, d'accord. Le deuxième chapitre va développer la notion du kavod et de la crainte qui est due au roi. On a évoqué ce sujet. Donc, par exemple, vous avez ici un article. Donc, deuxième chapitre, premier article. Kavod gadol noagin bameler, qui est un grand kavod qui est dû au roi. Umsimin lo ema, et on lui doit de la crainte, vira. Bon, alors, ema ira, ce sont deux formes différentes de crainte. Belef kaladam dans le cœur de tout homme. Shene ema, samtasim, shete ematu à la fin. Il faut qu'il y ait la crainte du roi sur toi. En rochvinal suso, en aucun cas on aura le droit d'utiliser son cheval. Ven yoshvinal kiso, on ne pourra jamais s'asseoir sur son trône. Ven mishtam shimesharvito, on n'a pas le droit d'utiliser son sceptre. Velo bekitro ni sa couronne, velo bechad mikol klidash mishav, ni dans aucun ustensile dont il a usage. Etc. etc. Je suis obligé de vous dire, donc je l'ai mis là. Dans le métro ce matin, je vais me garder celui-là. Alors, non, c'est pas celui-là. Oui, alors voilà, j'appelle mon ami Yona. Tu as le droit de me la filmer ? Voilà. Tu peux me... Okay. Chapitre 2, c'est ça, je suis dessus là ? Voilà, super. Donc, Perek, Sheni. Bon, je me suis trompé. Je suis désolé. Alors bon, je vais citer de tête, mais il y a un article que je retrouverai tout à l'heure si je le retrouve, vous me ferez confiance, où le Rambam dit explicitement que le roi a même la possibilité de réaliser des actions que le chauffette n'est pas en mesure de faire. Comme je disais tout à l'heure, il dit par exemple s'il y a quelqu'un qui a fait, vous savez, qui a fait un, je sais pas, il donne pas cet exemple, mais quelqu'un qui a fait un meurtre devant deux personnes. Mais il n'y a pas eu attrait. Il n'y a pas eu d'avertissement. L'avertissement selon les modalités très précises qui sont données dans la Gemara. Bon, ben, il n'est pas condamné. Ah ben, le roi, il peut le faire. Le chauffette, il ne peut rien faire. Mais le roi, lui, il a ce privilège. Voilà. Il dit même aide et khad. Il y a un seul aide. Bon, il y a une forte présomption de culpabilité, mais vice de forme, si j'ose dire. Oui, mais le roi, c'est bon, il peut y aller. Ça, c'est Maïmonide. Troisième. J'ai sauté le troisième chapitre qui va parler des obligations du roi. Le quatrième chapitre va évoquer donc les privilèges du Mélèque. Donc là, on va voir que Rambam va clairement trancher comme l'opinion de Rabbi Yossi et donc de Shmuel. Reshut Yesh Lamelech, la tête Masalam, le roi a le droit de l'iten masalam, de mettre des impôts sur le peuple, l'itrachav, pour ses besoins, ou le tzorachem chamot, donc que ce soit pour lui, ou bien pour les besoins du pays, pour aller en guerre. Les kotsevlo meches, et il fixe un meches, c'est quoi déjà? L'impôt, en impôt, ouais. Vassour, taxe et impôt, voilà. Vassour, l'avriach mina meches, et il est interdit, l'exode fiscal ou la fraude fiscale était interdite, on va dire, bam. On ne peut pas se dérober. Chez Echlo l'exor, chez Komiché Ignor Amechès, il kach mamono. Il a karno au Yehareg. Voilà, il peut décréter que celui qui refuse de payer, on peut lui prendre de force ou même on peut le tuer. Chez Neymar, va tem tiolo lavadin. Et il cite Shmuel. Il cite les menaces de Shmuel. Mais pour Rambam, il les lit comme Rabbi Yossé, qui ne sont pas des menaces, qui sont une liste de privilèges réels. Rambam est clair. Oulala Nuomer, et plus loin, même le même, pardon, là c'est dans Dvarim, Yulecha, non c'est pas Dvarim, Yulecha le Mas va Abadoucha, si ça doit être dans Dvarim. Mikan Shenoten Mas Vekotan Meches, Vedina Bechol Eloua Dvarim Kose Bendi, Mekol Eloua Parashat Menech, Menech Zuchébo. Donc tout ce qui est dit dans la paracha du Menech, dit Rambam, le Menech y a droit. Et il termine, et c'est très important, il termine ce chapitre, très important. Je pense qu'en fait c'est important de lire ça parce que sinon Abrabanel va la jouer trop facile. Donc je ne peux pas te laisser développer sans lire ça, Nassi. Parce que c'est vrai que c'est très facile d'attaquer tout ce que dit Rambam. Mais il faut accompagner ce que dit Rambam de cette fin qui est capitale. Kol ha'aretz shekovesh ari shelo. Toute la terre qu'il va conquérir. Alors on ne parle pas de la terre d'Eretz Israël, on parle des terres de conquête. C'est Mihemet Reshut, pas Mihemet Mitzvah. Les terres de conquête. Ouais, il a envahi l'Irak. Bon, il a gagné la guerre. Alors on dit ça, Kol Haaretz Arishelo. Venoten la Avada, et il peut donner à telle contrée, à tel serviteur, tel vassal, ou l'Anshan Mihamay aux gens de guerre. Kefimashirtse, il a pouvoir absolu. Ou Maniach Leatmo Kefimashirtse, il peut, bien sûr, il peut aussi garder pour lui ce qu'il veut. Il a le droit de partager, c'est sympa. Ou Frolelou Advarim Dinodin. Et toutes ces choses-là sont jugement et le jugement. Voilà. On ne discute pas. Il a pouvoir absolu. Maintenant, voilà, voilà ce qui est important. Attends, on ne parle pas de n'importe quel roi. Ouvrol Maasa, ouvrol, pardon, ouvrol Yu Maasa Leshem Shamaim. Oui, mais attendez, tout ce qu'il fait doit être fait Leshem Shamaim. Je ne suis pas en train de parler d'un tyran. Je suis en train de parler d'un roi dont les actions, les pensées, les guerres sont faites Leshem Shamaim. Je parle de quelqu'un, voilà, qui a la stature du roi. Métier Magamato, et dont le but sera au Mahashato et ses pensées des Harim Dataemet. C'est quelqu'un qui sera obsédé, si j'ose dire, par l'élévation de la vérité. Ou le Malot Aolam Tzedek. Et de la volonté de remplir le monde de justice. Par exemple, il y a un tyran en Irak. C'est terrible de laisser ce tyran massacrer ce peuple. Je vais conquérir ce pays pour libérer ce pauvre peuple de ce tyran. C'est ça, alors c'est pour ça qu'il va aller prendre l'Irak. Après, il en fait ce qu'il veut. Il n'y a pas l'Irak parce qu'il y a de l'or là-bas. Du pétrole, mais bon. Velishbor Zeroa Hacharim. Et son objectif sera de briser le roi, les bras des Rechaim, ou l'Achem, le Mechamot Hachem, et de mener des guerres contre Hachem. Shehen Mamlichin Melech Techila, et là, l'Asot Mishpat ou Mechamot. Parce qu'on ne peut. Et ça c'est très important parce que dit le Rambam, on ne nomme un roi au début que pour faire un mishpat, le jugement et des guerres. Encore une fois, on prend le passage de Shmuel où les peuples, c'est ce que le peuple va demander, il dit on veut un peuple qui nous juge et qui ira faire la guerre devant nous. Et dans le mot chauffette, il y a la notion de mishpatim, c'est-à-dire les lois de la Torah, c'est-à-dire les lois qui font de nous ce qu'on est, et qu'on n'est pas comme les autres peuples, qui font de nous des juifs. Ok ? Alors je vais revenir à ça parce que c'est important, parce que si, pour ceux qui ont lu Ravitsky, en fait il y a Rambam Avrabanel, mais Rambam avec l'Oran. Mais Rambam et l'Oran, Rabbeinu Nissim, sont en désaccord sur un point, et c'est ce point-là. Quels vont être les privilèges ? C'est sûr qu'il faut un roi, c'est sûr qu'il a plein pouvoir, mais c'est quoi le rôle du roi ? Donc Rambam, ici, il semble dire que le roi a plein pouvoir, et qu'il a, il a un rôle d'intermédiaire entre le peuple et la religion. C'est quelqu'un d'érudit, et qui va même être là pour appliquer le Mishpat. Donc c'est, on retrouve donc l'approche de Maïmonide. Alors moi je suis pas du tout un expert de Platon, mais il ramène aussi Platon, Ravitsky, donc dans la même idée. On retrouve cette approche qui consiste à élever les rois, en l'occurrence les rois d'Israël, et à leur attribuer des fonctions qui ne sont pas seulement nationales, mais aussi religieuses et spirituelles. C'est ce qu'on peut lire dans Rambam. Voilà. Avant de venir au Ran pour avoir une petite, pour lire peut-être une nuance sur le sujet, je voudrais juste partager avec vous un texte du Moré Nevuchim. Je ne vais pas le lire, mais simplement pour donner l'idée, dans la troisième partie numéro 50, je ne sais pas si on dit Saïf ou. Hein ? Perek ? Non, c'est Perek. Achelek Gimel Perek Nun ? D'accord. Chapitre 50. Maïmonide pose une question comme ça, il dit bon, il y a plein de passages dans la Torah, on se demande pourquoi ils sont là. À quoi ça sert ? Alors il commence par Bereshit, il prend tel. Pourquoi on me raconte cette histoire ? Pourquoi on me raconte la généalogie des saints ? Alors il dit ça c'est pour nous dire qu'il y a Amalek qui va descendre de Eliphaz, etc. Bon. Et puis après, il pose la question, il dit, mais je comprends pas, à la fin de Vaïchlar, on nous raconte qu'il y a plein de rois d'Édom, il y en a un qui a vécu l'un après l'autre, qui a régné. Alors ça me fait penser, je ne sais pas si certains inconnus connaissent Monsieur Vanish, le papa de Emmanuel qui vient souvent ici. Il m'avait raconté, c'est une blague à lui comme ça. Vous savez qu'il est Baal-Koré, ça va te plaire ça aussi. Et on dit, quand on lit ce passage, il y a écrit comme ça, Vayamot Bela, Vayimlortata, Vayamot Dema, Vayimlortata, Vayamot Racha, Vayimlortata, Vayamot Tada, Vayamot Samla, Vayamot Jao, Vayimlortata. Et après, alors, c'est très monotone, puis d'un seul coup, il y a Vayamot, là il y a un Zarka, d'un seul coup, vous êtes ceux qui chantent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et alors c'est quoi? C'est Baal Hanan Ben Arbor. Alors il dit, Zarka c'est une montagne, Arbor c'est une souris, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Bon, c'était l'humour de moi. Elle est pas mal. Bon. Je la connaissais pas. Et donc, en fait, ce passage, qu'est-ce qu'on a. Rimba me dit, mais à quoi ça me sert tout ça? Alors il dit cette chose extraordinaire. Et ça, c'est un enseignement que j'ai entendu. Enfin, je l'ai entendu rapporter par le Rav Zizek, à sa manière, très théâtrale. Mais déjà, on peut lire le Rambam. Il dit, regardez. Je veux dire, il me paraît très probable que leurs actes et leur histoire étaient généralement connus. Ah oui, alors d'abord je vais commencer par dire, c'est que quand on lit ce passage, on remarque quelque chose de notable, c'est que les rois dont il est question de Édom, ils sont pas d'Édom. Il y en a un qui vient de Bassora, c'est pas Édom, on connaît notre géographie. Il y en a un qui vient de Théman, vous savez, le Yémen, c'est pas Édom, etc., etc. Donc il dit, là c'est pour ça, on vient de dire, vous savez, eux les goïms, ils vont aller chercher des gens qui ne sont pas chez eux. Et dit Rambam, ces gens-là, ce sont des tyrans. Or, notre roi, ça ne doit pas être un tyran. Donc, vous n'allez pas prendre quelqu'un, et même en guerre, vous ne le prendrez pas. Parce que, pour comprendre le peuple et être proche du peuple, il faut être issu directement du peuple. C'est très dur ce qu'il dit là. Et il dit peut-être que le guerre, il n'a pas cette sensibilité-là. Il n'a pas cette sensibilité. Il n'est pas capable de comprendre l'aspiration profonde du peuple. Et Gérard qui disait, bon, il a dit des choses très dures, je ne vais pas dire ça ici, mais il a dit, si vous regardez au XXe siècle, les deux plus grands tyrans du XXe siècle, ils n'étaient pas issus de leur peuple. Il y en a un qui était autrichien et l'autre qui était géorgien. Bon, intéressant. Mais en tout cas, chez les juifs, alors, pourquoi je cite ça? C'est simplement pour dire que Rambam, on l'a vu dans le dernier chapitre que j'ai lu, et ici, il insiste énormément sur la qualité, sur l'intégrité du roi, sur ce roi-là qui doit être proche du peuple, qui ne doit pas être un tyran. Et je terminerai le Rambam en lisant un article que j'aurais dû d'ailleurs mettre sur la feuille. Donc c'est premier chapitre, Saïf 7. Il dit comme ça, « Kol mi she en bo yirat shamayim, tout celui qui n'a pas de yirat shamayim, afal pi she chokhmato merubé, même si c'est quelqu'un de très sage. » Il n'est pas éligible. Ça peut être le fils de son père éligible au roi, mais si c'est pas quelqu'un qui a de la Yirat Shamaim, il n'est pas. Donc le Rambam, il n'est pas en train de dire qu'on doit nommer un roi n'importe qui. On doit nommer un roi, mais qui répond à des critères très précis et qui va forcément être bienveillant. Parce que, regardez, chez les goïms, on peut prendre n'importe qui comme roi, mais regardez ce que ça donne. Mais nous, on ne peut pas prendre n'importe qui, parce que le roi, il est forcément bienveillant.
Pourquoi c'est héréditaire?
C'est une autre question. Ouais. Mais en tout cas, c'est héréditaire, mais ce n'est pas automatique, forcément. On a vu que chez Shlomo, entre David et Shlomo, il y en a d'autres qui auraient pu essayer. Alors, juste un petit. Pardon ? La Yirat Shamayim ? A kol min ha-shamayim chutz min yirat shamayim. La Yirat Shamayim, c'est le garant d'intégrité absolue. Je veux dire, c'est ce qui va. Quelqu'un qui est Yirat Shamayim, il peut pas faire des atrocités. C'est tout. C'est ça que je comprends. Voilà, on peut être très. Le dit, afalpi shir chokhmato merubé. On peut être très intelligent. On peut être prix Nobel. Mais on peut être un salaud. Le roi, c'est pas un salaud. Voilà. Ça, je pense que c'est important de dire ça dans les mots du Rambam. C'est-à-dire, c'est forcément quelqu'un qui a la chame. Et c'est en parlant de lui qu'il disait il a tous ses privilèges, tous ses privilèges. Il parlait pas. Alors après, on peut discuter. Oui, mais l'histoire, regardez, ça peut mal tourner. Ça, je vais laisser à Nathalie le soin de développer. Mais en tout cas, voilà la position du Rambam. Pour terminer, j'ai beaucoup parlé, vous avez le RAN ici à gauche, qui est très important. Donc, je ne sais pas si je le lis, je peux le lire, il n'est pas très long, mais quelle heure il est ? Ouais. Je vais peut-être résumer. Ce que dit le RAN, c'est que dans toutes les sociétés, non juif ou juif, il y a besoin d'un ordre. Il y a besoin d'ordre. Parce que sinon, c'est comme il dit, Ishadreyaou, Chaim Balaou. C'est chacun qui se bouffe, passez-moi l'expression. S'il n'y a pas de police, s'il n'y a pas de justice, alors c'est l'anarchie. Donc on a forcément besoin d'une structure juridique, appelez-la comme vous voulez, qui va maintenir tout ça. C'est les goïms chez les juifs. Et nous, pareil, j'ai presque envie de dire, peut-être plus que d'autres. Bon. Mais il ne le dit pas, ça c'est moi. Alors, Israël Trimze Keyeter Aumot, voilà ce qu'il dit. Il dit Israël en a besoin, exactement comme les autres nations, on n'est pas mieux que les autres. Hein. Bon. Par contre, les Israël, ils ont quelque chose en plus. Ils ont la Torah. Donc, dit le Ran, il dit ben, par rapport à ces deux attentes-là, qui est maintenir l'ordre et maintenir et faire en sorte que la Torah soit appliquée, je vais avoir. Alors, chez les goïms, un mélère ou un chauffette, c'est pareil, il va faire appliquer l'ordre. Il n'a pas de Torah, lui. Les goïms n'ont pas ça. Les juifs, ils ont la Torah et ils ont l'ordre. La Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire Shabbat. Oui, mais si je ne fais pas Shabbat, ça gêne pas la société. Ça n'a aucun. Il le dit clairement. Il dit En Beota Avera Efsed Yishuv Amidiani Klal. Il n'y a aucun préjudice dans la société. Si je suis mécréé à Shabbat, je fais de mal à personne. Donc, ça ne va pas gêner une certaine structure, mais par contre, ça va gêner la Torah. Donc, dans l'organisation de la société juive, il faut gérer ces deux attentes. Et dit le Ran, ben, c'est très clair. On peut jouer aux devinettes. Le roi, il est où, d'après vous? Il y a le roi, il y a le chauffette, d'accord? Il y a le roi, il y a le juge. Ben, ils vont avoir des fonctions très différentes. On ne mélange pas les deux choses, dit le Ran, très clairement. Et là-dessus, je crois que c'est là-dessus qu'il s'oppose à Rambam. Que dit que d'après le RAN, qui va s'occuper des lois de la Torah? C'est le chauffette. C'est pas le ménère. Le ménère qui va être garant d'ordre. Mais il va pas s'occuper des lois de la Torah. Voilà ce que dit le RAN dans les dernières villes. Avanim Sharnaim ou Khoshavai document des dernières. A Shofim Asandrin Ayatarkintam. Donc le Sanhedrin et les juges, leur objectif c'était de juger le peuple selon un mishpat amiti et tzodek, ça veut dire ça fait référence. Donc chez Imshach Mimenuad, comment on dit, Adévek Imshach Menuad, je sais pas, Adévek Enyan Ha'eloki Banu, c'est-à-dire que leur rôle c'est de faire en sorte que l'attachement à Dieu subsiste. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire les mitzvot, qu'on soit chomré Shabbat, qu'on soit chomré Kashrout. Ça, c'est le rôle du chauffette. Et ce qui manque dans l'organisation des mitzvot, mais qui est nécessaire à l'organisation d'une société, ça, c'est Shoftim Veshoftim Titanecha. Ça, il faut rajouter encore plus pour maintenir tout ça. Donc, séparation des églises et de l'État, si j'ose dire, au niveau du RAN, vous avez le roi, il va s'occuper de l'ordre, et le chauffette, lui, il va s'occuper de ce qui relève des mitzvot de la Torah. Comment? Comment? Ils étaient, parce qu'il n'y avait pas droit, mais parce que le peuple n'avait pas demandé de ménère, justement. Mais il y avait des Sanhedrin. Il y avait un Sanhedrin, il y avait des Bedin. Non, mais on dit chauffette ici, c'est pas au centre. Si, il y avait bien sûr. Ben, c'est lui qui va légiférer, qui va dire il y a eu un meurtre, ok, où sont les témoins? C'est recevable, on exécute. C'est pas recevable, on n'exécute pas. Et je pense que là, il ne va pas dire comme le Rambam, l'article que j'ai lu sans l'avoir lu tout à l'heure, qui dit, mais même s'il n'y a pas de témoin, je peux tuer. Le Rambam dit clairement que non, non. Là, à quoi il a été Mechalel Shabbat? Mais ça ne fait pas de préjudice, ça fait de préjudice à personne. Laisse-le tranquille. Toi, le roi, tu n'as pas le droit d'y toucher. Je ne l'ai pas lu ça, mais je pense que c'est ce que dit le Rambam.
Il y a une confusion dans le mot
Shoftim. Oui, Shofet, c'est celui, c'est Milashan Mishpat.
C'est un Dayan.
Oui, celui qui applique le jugement.
Oui, d'accord.
Mais Rav Gonstein, Shoftim et Shotrim Titanecha, quand on dit Shofet, on ne parle pas des Shoftim qui ont précédé, c'est pas le même. Voilà, c'est ça la confusion, elle est là, effectivement, vous avez raison, madame. Et c'est. Bon, les mots sont. Pas toujours nos amis. Voilà, donc j'essaie de développer voilà, comment on a petit à petit on est arrivé à comprendre la pensée maïmonidienne sur ce sujet-là, qui est pas loin d'être celle du Rav finalement. Il y a quand même une divergence sur le champ d'application du roi, mais pour conclure, que ce soit le Ramban, c'est très clair. Il y a l'obligation de nommer un roi. Il faut le faire dès qu'on arrive en Eretz Israël, et il a les pleins pouvoirs, en tout cas d'après le Ramban et d'après Nachmani.
Merci beaucoup à lui pour l'excellent exposé. Je crois que ça fait réagir un peu Ben Frank, ce que tu viens de dire sur un Rambam.